Radio Okapi. Grande interview.
Leadership politique et sous-développement en RDC, ville de Kisangani et ses élites post-coloniales, tel est le titre de l'ouvrage de 300 pages paru aux éditions de l'Harmattan et baptisé mercredi dernier à l'université de Kinshasa. Son auteur, Joël Lisenga, professeur à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, soutient sans ambages que la RDC est malade de son élite politique qui passe tout son temps dans des guéguerres plongeant tout le pays dans une misère indescriptible. Joël Lisenga est donc l'invité des grandes interviews dans ces numéros. Produite sous la supervision de Alain Irung, cette émission vous est coordonnée et présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro le professeur Joël Lisenga. Il est auteur du livre Leadership politique et sous-développement en RDC. Professeur Joël Lisenga, bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes auteur du livre « Leadership politique et sous-développement en RDC, ville de Kisangani et ses élites post-coloniales ». De quoi parlez-vous dans cet ouvrage ?
Merci beaucoup pour la question. Ce livre cherche à provoquer une rupture, ou mieux une prise de distance par rapport aux thèses conspirationnistes et alarmistes excessivement mise en exergue dans plusieurs travaux de recherche portant sur les causes du sous-développement des États africains post-coloniaux. Et il faut dire que son point de départ est une question de l'agentivité de l'élite politique face au développement de sa nation. Dans ces livres, nous démontrons très clairement que la RDC est malade de son élite politique qui se baigne depuis l'accession du pays à l'indépendance dans un leadership politique de sous-développement ainsi que dans un nationalisme de sous-développement. Ce sont ces deux mots qui rongent notre pays et qui le maintient dans les carcans du sous-développement.
Pourquoi vous être focalisé sur la ville de Kisangani alors que la capitale de la RDC est Kinshasa, qui est le siège de toutes les institutions politiques?
La ville de Kisangani est un champ politique très important sur le plan géostratégique. L'histoire politique de notre pays nous renseigne que depuis plusieurs décennies, la ville de Kisangani a toujours été au centre, le point de chute de nombre de faits qui ont positivement ou négativement marqué l'histoire politique du pays. La ville de Kisangani est considérée comme étant le berceau du nationalisme congolais. C'est de là que Lumumba enclenchera la lutte pour l'indépendance, alors qu'il n'était pas originaire de la province orientale ou de Kisangani, mais bien des Katakokombe dans le Kasaï oriental. C'est à Kisangani que Gizenga installa son gouvernement, alors que lui non plus n'était pas de Kisangani, mais bien de Bandundu. La consolidation de la rébellion de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, avec cette phrase magique de l'ancien premier ministre Kengo Adondo qui disait « Kisangani ne tombera pas ». Mais finalement, lorsque Kisangani est tombé, c'était les restes d'Isaïe qui étaient pratiquement pris en sandwich par les rebelles de l'AFDEL. Alors, vous voyez déjà que la ville de Kisangani occupe une place importante dans l'histoire de notre pays. Et ces champs politiques intéressent pratiquement tous les chercheurs qui veulent connaître les réalités profondes de la République démocratique du Congo.
Quelle démarche épistémologique et méthodologique avez-vous emprunté pour arriver à prouver scientifiquement la thèse que vous soutenez dans ce livre?
Bien, à ce qui concerne la méthodologie, je voudrais vous épargner franchement de démonstrations théoriques purement académiciennes, notamment la théorie de champ sociopolitique qui a guidé notre recherche sur terrain, le postulat de la théorie de champ sociopolitique nous ont permis pratiquement de dénicher les différents types de capitaux qui constituent l'enjeu dans le champ politique de la ville de Kisangani et qui seraient à la base de la lutte pour le leadership. Il s'agit notamment ici, pour les citer rapidement, du capital économique, du capital symbolique, du capital politique et social. Le mérite de ce livre est d'avoir donné la parole aux acteurs politiques, aux membres de la société civile, ainsi qu'aux témoins de l'histoire sociopolitique de notre pays. Et cela à travers les questionnaires d'enquête, à travers les entrevues, le focus group, les échantillons boule de neige, des lectures des documents stratégiques. Je passais un très long séjour au musée royal de Terre-Virène, où je passais même un stage pendant longtemps. J'ai eu à lire beaucoup de documents pour avoir des données sur ces livres qui constituent aujourd'hui pratiquement une bible sur la question du leadership politique et du développement de notre pays.
Comment avez-vous articulé votre ouvrage et que faire pour s'en procurer?
Le livre compte au total 5 chapitres. Le premier porte sur la notion de leadership politique de développement opposé à celui de leadership politique de sous-développement, des nationalismes de développement opposés à celui des nationalismes du sous-développement. Et les deuxièmes chapitres présentent de façon chronologique l'évolution de l'élite politique congolaise en général et de la ville de Kisangani en particulier. Le troisième chapitre analyse la lutte pour le leadership au sein de l'élite politique de la ville de Kisangani. Le quatrième chapitre se concentre sur les élites politiques locales de la ville de Kisangani. Et enfin, le cinquième chapitre analyse la lutte pour le leadership et le nationalisme de sous-développement comme obstacle à l'essor de la ville de Kisangani post-coloniale. L'ouvrage a été édité par les éditions L'Harmattan Paris. Pour acheter, je crois qu'on peut contacter directement les éditions L'Harmattan. Il y a des versions électroniques aussi, on peut acheter en ligne pour avoir un exemplaire de cet ouvrage très intéressant.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Joël Lissenga, auteur du livre Leadership politique et sous-développement en RDC. Alors professeur, qu'est-ce qui vous a motivé à associer immédiatement le leadership politique et le sous-développement en RDC?
Ce qui nous a motivé à associer immédiatement le leadership politique au développement de la RDC, c'est cette question qui taraude l'esprit de chaque Congolais, voire de tous ceux qui observent l'embryamini socio-politico-économique qui bat son plein dans notre pays depuis 1960. La question c'est celle-ci. Pourquoi et comment un pays pourvu d'intellectuels et d'élites politiques aux compétences avérées patauge-t-il tant dans les raies d'un développement économique, social et culturel performant? Qu'est-ce qui explique cette situation? Nous avons tout. Nous avons des intellectuels, nous avons des richesses, nous avons tout ce qu'il faut pour se développer, pour se lancer, pour faire un bond qualitatif. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours statiques, en train de stagner sur tous les plans presque? Plusieurs collègues chercheurs ont tenté de répondre à cette question Mais dans ces livres, nous avons abordé la question de l'agentivité de l'élite politique face au développement de sa nation. C'est-à-dire, l'élite politique en tant qu'agent de développement. Nous considérons dans ces livres que l'élite politique doit donner l'impulsion nécessaire pour déclencher le processus de développement. Mais tout dépend des types d'impulsion qu'elle donne. Cette impulsion peut être positive ou négative. Le cas à présence, c'est pratiquement une impulsion négative qui est donnée. C'est pourquoi nous sommes pratiquement dans le sous-développement. Nous demeurons pratiquement dans le ghetto. Depuis 60 jusqu'à ces jours, il y a toujours cette impulsion négative qui est donnée. C'est une sorte de manque de vision qui caractérise l'élite politique.
Pourquoi pensez-vous que le sous-développement de la RDC est dû principalement à sa classe politique?
La RDC, mon cher Michel, est malade de son élite politique parce que celle-ci n'arrive pas à donner l'impulsion susceptible de déclencher les développements socio-économiques, socio-politiques du pays depuis 1960. Les élites politiques de tous les 5 régimes qui se sont succédés à la tête du pays ont pataugé dans le leadership politique de sous-développement et dans le nationalisme des sous-développements. Il ne faut pas qu'on se voile de face. Vous savez, le leadership politique des sous-développements, comme nous l'avions dit plus haut, a des caractéristiques. Vous allez voir les élites politiques qui s'enrichissent de manière égoïste, il y a des poches de personnalités politiques qui s'auto-relancent sur le plan de la richesse, sur le plan des gains et de manière assez particulière, qui se distinguent par un enrichissement illicite. Mais pour lancer l'ensemble de la population du pays, non, c'est pas le cas. Alors, à partir de cela, on peut dire que la RDC est réellement malade de son élite politique qui n'a pas la vision de développement. Alors, il faut construire cette vision. Il faut construire ce que nous avons appelé dans ces livres le leadership politique de développement. C'est ça qui se passe ailleurs et que nous devons amener chez nous. C'est ce que nous proposons.
Si réellement la classe politique congolaise est constituée des médiocres, comment expliquez-vous que la plupart des éminents professeurs d'université qui font partie de la classe politique n'arrivent pas à mettre leurs connaissances au service du développement du pays?
Je dirais tout simplement que, bon, le mal, je dirais d'emblée, que le mal est profond, le mal est à tous les niveaux. Il faut relativiser la notion aussi d'éminent professeur, surtout dans les contextes qui est les nôtres, je voulais dire pas là, dans le contexte congolais. Le professeur déjà clochardisé par les pouvoirs, Lorsqu'ils vont en politique, ils perdent pratiquement toute objectivité. Pour la plupart des cas, ils sont nommés directeurs des cabinets, conseillers, au lieu de conseiller leurs chefs, leurs autorités, mais ils sont plutôt conseillers. Qu'est-ce qu'ils apportent en ces moments-là? Alors, ils sont nuls. Est-ce qu'ils sont encore meilleurs? Est-ce qu'ils sont encore éminents lorsqu'ils se retrouvent dans ces cercles pratiquement qui essayent de les phagocyter? Je ne pense pas. C'est pourquoi j'ai dit il faut essayer de relativiser ce que vous appelez éminent professeur. Il y a aussi des professeurs qui en politique, une fois en politique, deviennent de partisans, de chantres. Ils acclament, ils sont à la télévision à tout moment, en train de crier au nom de leur parti, en train de brandir des articles, ainsi de suite. Et est-ce que vous allez dire en quoi ils sont éminents? Écoutez, je pense que nous enseignons la haute science dans de grandes universités du monde. Il faut éviter de mettre en avant-plan le mythe des diplômes qui aujourd'hui, dans notre pays, bat son plein. Tout le monde cherche un diplôme honoris causa, tout le monde cherche à devenir docteur. Et c'est ce mythe des diplômes qui détruit pratiquement le milieu intellectuel. Je crois que le professeur, le vrai, devrait rester à l'université en train de pratiquer la science, et l'État devait payer le professeur comme il faut pour que le professeur soit indépendant, apporte des connaissances objectives, capables de changer la société. Il ne faut pas que le professeur aille faire pratiquement de jouer au chantre, jouer au tambourinaire dans le milieu politique.
Vous nous avez rejoint en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Joël Lissenga, auteur du livre Leadership politique et sous-développement en RDC. Professeur, que préconisez-vous dans votre ouvrage pour amener la RDC au développement? Faudrait-il faire la table rase de l'actuelle classe politique?
Dans cet ouvrage, nous présentons plusieurs solutions. La toute première, qui est la plus simple d'ailleurs, c'est d'abord la prise de conscience. Il faut prendre conscience pour construire en RDC un leadership politique de développement et un nationalisme politique de développement. Cette construction passe par les changements de la classe politique pour avoir des hommes et des femmes visionnaires, qui seront des élites modèles de la société, avec la capacité d'accélérer le développement du pays de par leurs idées, des hommes et des femmes qui feront montre d'un certain nombre de vertus, de vrais meneurs d'hommes, des hommes et des femmes qui vont pas chaque fois se faire des coques à jambes pour récaler le développement du pays. Des hommes et des femmes qui seront dotés des capacités de mobiliser la population sur les questions de développement. Et alors, pour cela, nous devons avoir des élites qui vont posséder plusieurs qualités, la capacité de percevoir le développement venir, de saisir les attentes, le besoin majeur de la population. Nous pensons tout simplement que nos dirigeants, oui, qui sont, c'est vrai, un peu hostiles à la lecture, et notre population va lire cet ouvrage, parce que je vous dis que l'ouvrage est sérieusement acheté ailleurs pour ceux qui veulent découvrir la question du leadership au Congo. En tout cas, les gens achètent. Nous avons des échos. Vous le savez que nous-mêmes, nous pratiquons la science, nous enseignons dans d'autres universités internationales. Nous avons des échos à tout moment de la part des éditeurs que l'ouvrage est très bien acheté, à une bonne cotation. Alors nous croyons qu'au niveau de notre pays, ça sera la même chose pour que l'on puisse exploiter les solutions que nous proposons.
Et si la convoitise occidentale des richesses congolaises n'est pas la cause principale du malheur congolais, comment expliquez-vous qu'en dépit des bonnes intentions exprimées généralement avant les élections, les dirigeants congolais ne parviennent pas à booster le développement du pays alors que la RDC est qualifiée de scandale géologique et écologique?
Cher ami Michel, je réaffirme encore que nous sommes nous-mêmes la cause de notre malheur, la cause de notre du sous-développement qui mine notre pays pratiquement depuis l'accession du pays à l'indépendance. La panoplie de promesses que l'on nous présente pendant la campagne électorale ne sont que les chapelets de bonnes intentions, sans la vision du développement. Ces promesses resteront pratiquement des lettres mortes. Ces leaders politiques continueront à nous vendre du vent. Alors, nous devons faire très attention lorsque nous cherchons les causes de notre malheur ailleurs. Ce n'est pas vrai. Nous devons nous regarder en face pour dire que notre malheur vient de nous-mêmes. C'est trouvant nous-mêmes à travers ces élites politiques qui n'ont pas la vision réelle du développement.
La toute dernière question, professeur, comment définissez-vous un leadership de développement et très concrètement, comment s'y prendre pour arriver à promouvoir un nationalisme de développement en RDC?
Qu'est-ce qu'on attend par le leadership politique de développement? Le nationalisme de développement, c'est quoi? D'abord, il faut dire que de manière lapidaire, de façon lapidaire, si le terme leadership, qui désigne pratiquement la capacité dont dispose un leader de drainer, de conduire, d'amener, il faut dire que tous les leaders ne conduisent pas nécessairement vers le développement. Alors, le leadership politique de développement désigne les qualités qu'un leader ou une élite politique doit avoir afin de pouvoir mobiliser efficacement sa base et l'amener de manière victorieuse et rapide au développement. C'est ce que nous appelons en d'autres termes les leaderships bien exercés, les leaderships positifs. Ainsi donc, on peut dire tout leader qui, de par ses initiatives, arrive à produire un changement positif dans sa contrée, par exemple la construction des routes, la construction des infrastructures hospitalières, scolaires, l'amélioration des conditions de vie de la population, etc., exerce un leadership politique de développement. On peut prendre l'exemple du défunt président John Magufuli en Tanzanie qui a donné l'impulsion nécessaire pour le développement, pour la relance de l'économie de la Tanzanie. Et on peut prendre l'exemple de Mao Tse-tung en Chine. Les exemples sont légion. Alors, lorsque, par exemple, une élite, un leader se distingue par une gestion calamiteuse de biens de la communauté, qui ne construit pas, qui n'améliore pas les conditions de vie de sa population. Alors, on peut dire que ce leader-là est dans la logique du leadership politique du sous-développement. Alors, parlons du nationalisme du développement. Et c'est presque pareil. Le nationalisme du développement incarne tout simplement le vrai valeur nationaliste. Et le nationalisme de développement consiste à avoir cet amour profond de sa nation pour l'amener au développement. Beaucoup de leaders ont donné l'impulsion positive pour le développement de leur nation. Et là, ils ont joué ce que nous avons appelé ici le nationalisme des développements. Je parlais avec un leader politique dont je t'ai expressement les noms et je lui ai posé la question de savoir sur le massacre de 1964 lors de la rébellion mouléliste à Kisangani. Et il m'a dit tout simplement que, écoutez, professeur, nous avons à l'époque tué au nom du nationalisme. Écoutez, c'est confondre les choses. Et les nationalismes, on ne peut pas massacrer sa population au nom du nationalisme. Les nationalismes de développement poursuivent le progrès de la nation. Il apparaît de nos investigations que la persistance d'une lutte acharnée pour le leadership sur fond des compétitions et des discordes entre les leaders politiques originaires des différents districts de la province orientale a contribué significativement au sous-développement économique, social et culturel de cette ville de Kisangani. Cette guerre du leadership a également fait en sorte que la ville devienne le point de cristallisation de rébellions à répétition, de guerres, de émeutes dévastatrices et de massacres des populations civiles, etc. Et d'ailleurs, c'est l'origine du pseudonyme Afré qui a été encollé à cette ville dès les premières heures de l'indépendance, Kisangani, la ville martyre de la RDC. Alors, ces cas de figure de la ville de Kisangani s'observent pratiquement dans toutes les entités décentralisées du Congo depuis l'indépendance. Les élites politiques qui, au lieu de donner l'impulsion pour le développement de leurs milliers, s'observent pratiquement en chien de faïence et se lancent dans une guéguerre de leadership dont les causes profondes gravitent autour des intérêts personnels. Le lecteur partagera notre double quête ici. D'abord, celle de réduire le méfait du leadership de sous-développement et du nationalisme du sous-développement, mais aussi celle plus fondamentale de développer un nationalisme des développements.
Professeur Joël Lissenga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission a été réalisée sous la supervision de Alain Irung. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Je prends rendez-vous avec vous samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.